Marc Leval, la grande matinée Sud Radio.
Avec mon invité Jean-Marc Bonnet-Bideau qui est avec moi, astrophysicien. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Merci d'être là pendant quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. On va se replonger au cœur des Dogons. Beaucoup ne connaissent pas évidemment le mystère des Dogons. C'est un... Alors où sommes-nous ? On est au Mali ?
Absolument, au Mali, dans une région un peu isolée du Mali.
Et vous êtes allé à la rencontre des Dogons, hein ?
Oui, voilà. En fait, moi, c'est une histoire un peu particulière parce que moi, je suis scientifique, je suis astrophysicien. Et puis un jour, en lisant un livre, j'ai découvert qu'il y avait une énigme astronomique au Mali, chez les Dogons.
Alors, vous avez décidé d'aller directement sur place ?
Voilà, et j'ai été sur place avec des gens d'extrême qualité, parce que en fait, peut-être que vos auditeurs ne le savent pas, mais tout ce qu'on sait sur les Dogons nous est venu d'ethnographes, d'ethnologues français.
Marcel et Germaine, comme on dit.
Voilà, Marcel Griot et Germaine Dieterlin.
Absolument.
Et la chance a voulu qu'effectivement, Germaine Dieterlin est une femme merveilleuse, qui s'est passionnée jusqu'à la fin pour cette population des Dogons, et je l'ai rencontrée juste avant sa disparition. Et nous avons fait un voyage ensemble au Mali.
Voilà. Alors vous allez au Mali pour rencontrer effectivement ces Dogons. Ils vivent dans quelles conditions ?
Alors écoutez, notre voyage date de 1998, donc je ne peux pas vous dire actuellement, parce que j'y suis pas retourné depuis quelques années, mais à l'époque, il n'y avait encore pas d'électricité. Hein.
Ouais,
donc si vous voulez, c'était... c'est une population qui a toujours été un tout petit peu isolée. C'est ce qui l'a préservée d'ailleurs de beaucoup d'influence et ce qui a fait qu'elle a gardé sa culture.
Donc ils n'ont pas de gros moyens, et pourtant, ils ont une véritable histoire. Alors est-ce qu'on peut dire que ce sont les anciens qui leur ont inculqué comme ça de génération en génération ?
Alors oui, bien sûr, parce qu'ils ont une vraie culture, donc qui s'est développée évidemment, comme tous les groupes humains, avec des notions sur la vie, la mort, la création du monde. Et ce qui nous a passionné, c'est qu'en fait, ils avaient des notions astronomiques. Alors là, c'était un petit peu plus bizarre, parce qu'effectivement, évidemment, les Dogons n'ont pas d'instruments. Ils observent le ciel à l'œil nu.
C'est ça, ils observent à l'œil nu. Il n'y a pas de télescope, il n'y a pas tous les moyens modernes dont on dispose aujourd'hui. Ils observent et ils affirment également qu'ils viennent d'ailleurs.
Alors, moi, je pense que je serais un tout petit peu plus prudent là-dessus. Disons, venu d'ailleurs, tout être humain semble bien essayer de se rattacher au cosmos.
Oui.
Donc, il y a dans la mythologie Dogon l'idée qu'ils viennent du ciel.
D'accord.
Mais ceci dit, ça, faut pas le prendre non plus à la lettre. Beaucoup de cultures, en fait, même nous si on imagine dans notre culture chrétienne, on a été créé par Dieu, bon, d'une certaine façon, ça a rapport avec le ciel. Donc, il faut pas le prendre trop à la lettre. C'est un discours cosmologique, c'est-à-dire un discours qui raconte la création du monde. Évidemment, eux, ils sont descendus dans un panier depuis le ciel.
Ben c'est ça, dans un panier. Mais alors, ils le décrivent quand même d'une manière très précise, hein, ce fameux panier qui descend du ciel, avec ce nuage qu'on pourrait supposer être fait par les réacteurs de ce panier.
Alors là, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de d'imagination.
On a extrapolé, peut-être.
Oui, moi, je pense que... ils décrivent, si vous voulez, quelque chose d'intéressant, que les hommes seraient venus du ciel, donc descendus par un panier, et il y aurait eu les quatre ancêtres, parce qu'il y a quatre grandes familles chez les Dogons. Et en fait, ce qu'ils nous disent d'intéressant, c'est que dans leur discours, ils disent quand ils sont descendus, c'était l'obscurité. Et en fait, ce qu'ils ont vu... La première chose qu'ils ont vue dans le ciel, ce n'est pas le soleil, c'était une étoile, l'étoile Sirius. Et ensuite, le soleil est arrivé. Et ça a été ce qu'ils appellent le premier matin du monde.
Est-ce que nous, on avait connaissance de Sirius, justement ?
Ah oui, bien sûr, parce que Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Donc, elle a fasciné beaucoup, beaucoup de civilisations, même d'ailleurs les anciens Égyptiens, il y a bien longtemps. Et nous l'avons observé avec des instruments à la fin du 19e siècle. Et on a découvert qu'effectivement, cette étoile qui est très brillante dans le ciel, c'est la plus brillante du ciel, eh bien, elle avait une toute petite étoile à côté.
Voilà, c'est ça. Alors, ce que disent les Dogons, ils affirment que Sirius serait donc accompagné non pas d'une étoile, mais de deux étoiles.
Voilà, et alors, il faut tout de suite dire qu'effectivement, cette petite étoile, vous voyez, il a fallu qu'on ait les premiers instruments, les premiers télescopes pour la découvrir, parce qu'elle n'est absolument pas visible à l'œil nu. C'est une toute petite étoile, même si on l'écartait de cette étoile brillante autour duquel elle tourne, qui est Sirius, on ne la verrait pas à l'œil nu, si vous voulez, c'est vraiment une toute petite étoile. Et alors, l'énigme astrophysique, elle est là. C'est donc comment les Dogons, qui observent le ciel à l'œil nu, ont pu avoir conscience qu'il existait une petite étoile à côté de Sirius.
Et c'est ça. Parce que eux, ils l'affirment évidemment depuis toujours. Nous, on n'en avait absolument pas connaissance, sauf qu'en poussant un petit peu l'enquête, le travail d'investigation et de tous les scientifiques dont vous faites partie, les astrophysiciens, on s'est rendu compte qu'effectivement, il existait bien une petite sœur à Sirius.
Exactement, c'est ça qui a été une surprise d'une certaine façon quand on a retrouvé ces histoires anciennes des Dogons, parce que si vous voulez, c'est revenu après à la mémoire des gens quand l'étoile a été elle-même découverte, et bien longtemps après, presque dans les années 1950 si vous voulez, et on a fait un rapprochement comme ça. On s'est dit quand même c'est très très étrange.
Et comment eux peuvent-ils savoir qu'il y a une deuxième étoile à côté de Sirius, qu'on appellera donc Sirius B par exemple?
Oui, c'est comme ça qu'on la nomme.
C'est comme ça qu'on la nomme, hein, absolument. Et alors que nous, avec évidemment tous les supports technologiques extrêmement avancés, très pointus des scientifiques comme vous, astrophysiciens, cher Jean-Marc, comment ne pouvions-nous pas savoir qu'il y avait bien effectivement cette petite sœur de Sirius? C'est incroyable.
Ben oui, c'est ça. C'est tout à fait amusant. Alors, si vous voulez, évidemment, l'explication n'est pas encore donnée. Elle est très compliquée à reconstruire. Moi, j'ai fait des hypothèses, puisque je travaillais déjà sur cette petite étoile qui est Sirius B en tant qu'astrophysicien.
Oui.
Donc, si vous voulez, en fait, l'histoire est... En deux mots, il semblerait que Sirius ait eu une histoire assez chaotique. À un moment donné, on a dit que l'étoile était rouge. C'était au moment du début de l'ère moderne. Les derniers astronomes grecs anciens ont trouvé que l'étoile était rouge. Or, l'étoile, nous n'observons pas du tout rouge, elle est blanche, elle est même très très brillante, presque bleue, et donc ça rajoute une espèce d'incertitude sur ce qui est arrivé à cette étoile peut-être dans le passé. Et alors mon hypothèse a été qu'évidemment ils n'ont pas pu observer autour de Sirius cette petite étoile, mais qu'ils ont peut-être récupéré dans leur culture une information qui leur a été donnée peut-être par des anciens égyptiens, effectivement que l'étoile s'était transformée à un certain moment. Et alors l'idée peut surgir sans aucune observation directe évidemment qu'à côté il y aurait quelque chose qui aurait causé ce changement de couleur.
Ouais.
Et c'est de là que peut-être on pourrait imaginer que c'est vraiment par intuition pure, si vous voulez, on arrive à la conclusion qu'il existe une petite étoile.
Voilà, absolument. Alors on va reparler bien sûr de Sirius B dans un instant. Je voudrais qu'on revienne aussi, on va marquer une petite pause Jean-Marc, mais je voudrais qu'on revienne aussi sur ce que les Dogons appellent les Nomos précisément. Ce seraient des créatures amphibies qui auraient atterri sur Terre il y a fort longtemps. C'est peut-être ça dont on parlait et que vous évoquiez avec le fameux, alors moi évidemment je vais le dire avec mes mots, mais le vaisseau peut-être qui aurait atterri sur Terre et qui aurait colonisé une partie du Mali. Ça pourrait être ça l'explication, mais vraiment en raccourcissant, hein.
Oui, enfin, si vous voulez, je pense que vous faites référence évidemment à un livre qui a beaucoup marqué les gens, qui était le livre de Robert Temple, qui faisait cette hypothèse, puisque lui, confronté à cette anomalie que les Dogons auraient pu avoir des connaissances astronomiques, il a voulu aller les chercher dans une histoire, si vous voulez, on pourrait l'appeler d'extraterrestre.
Mais c'est ça. Alors c'est ça qui est fascinant. Mais on marque une pause, Jean-Marc, et puis on revient juste après pour rentrer dans le détail.
La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre.
On est au cœur du Mali, le mystère des Dogons. Jean-Marc Bonnet-Bido qui est avec moi, astrophysicien bien sûr, il est consultant scientifique pour quelques revues, en particulier pour Ciel et Espace. Alors on parle bien sûr des Dogons et des deux scientifiques d'ailleurs qui ont vécu près de 20 ans. Hein. Il le disait Jean-Marc il y a un instant, c'est Marcel Griol et Germaine Dieterlin. Ils ont passé 20 ans et ils ont tout simplement eu quelques confidences des Dogons. Et quand les deux scientifiques ont demandé aux Dogons d'où ils tenaient leur connaissance, leur savoir, eh bien les Dogons, Jean-Marc, je parle sous votre couvert, ils ont été assez clairs et formels. Ils ont dit, on a été créés par des créatures amphibies qui ont donc atterri sur Terre il y a fort longtemps. Elles ont transmis ce savoir à quelques initiés. Ces créatures qu'on appellera les Nomos sont les guides de l'univers, les pères du genre humain. Il fait trop chaud ou est-ce que ça va bien chez les Dogons?
Oui, alors voilà, bon, l'histoire est toujours racontée de différentes façons, évidemment, hein, par différents acteurs, ceux qui en ont connaissance. Les ethnologues français, ils ont travaillé bien plus longtemps que ça, puisque Germaine Dieterlin a travaillé plus de 60 ans. Elle a commencé ses études en 1935 en pays Dogon, et le dernier voyage que nous avons fait ensemble était en 98. Donc, si vous voulez, c'est une femme très très sérieuse, elle a toujours été très très rigoureuse, et disons, elle a rapporté ce que disaient les Dogons. Alors, après, on en a tiré différentes conclusions. Ce qu'on tire de l'histoire réelle telle qu'elle a été racontée à Germaine Dieterlin, c'est que le Nomo, en fait, le nom Nomo, c'est le dieu de l'eau. Et vous comprenez bien qu'effectivement, au Mali, l'eau est extrêmement rare, donc extrêmement précieuse. C'est normal que cet élément soit un élément constitutif de l'histoire des Dogons.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça a donné le fameux titre de Marcel Griot dans un petit livre qu'il a écrit, qui est très, très agréable à lire, qui s'appelle « Dieu d'eau ». C'est l'histoire de ce fameux Nomo. Ouais. Donc, si vous voulez, on pourrait dire, est-ce que ce sont des créatures, une créature? Pour moi, c'est plutôt l'emblématique valeur de l'eau dans une culture africaine qui est effectivement très, très, qui a des époques de sécheresse. Mmh. Donc, c'est un petit peu ce qui est repris, hein. Mmh.
Alors oui, moi j'ai envie de quand même de croire, vous savez, j'ai une âme d'enfant hein, quelque part, donc j'aimerais quand même continuer à croire les choses, parce que quand il parle de ces créatures amphibies, si on reste très terre à terre, sans mauvais jeu de mots, les Dogons ont quand même dessiné un petit peu partout des figures hein, qui évoquent justement l'arrivée des Nomos sur Terre.
Oui, alors bon, si vous voulez, bon, les dessins, c'est vrai qu'il y a des dessins extrêmement jolis dans les falaises, puisqu'il y a, vous savez, ils existent dans le pays Dogon, qu'on appelle la falaise de Bandiagara, depuis à peu près le XIIIe siècle. D'ailleurs, on a pu découvrir ça de façon assez amusante, puisqu'ils ont une cérémonie symbolique tous les 60 ans, dans laquelle ils construisent des grands masques, et on a trouvé dans un endroit où ils remettent ces masques, une fois qu'ils ont été utilisés, 13 de ces masques. Donc ça nous a dit qu'ils existaient depuis au moins à peu près 750 ans dans cette falaise. Alors, si vous voulez, il y a différents symboles dessinés. Il y a le symbole du renard pâle, qui est aussi une figure très très emblématique de leur culture. Alors après, moi je pense que je n'ai jamais rien trouvé d'évidemment de complètement convaincant, si on veut parler d'un vaisseau extraterrestre, de choses comme ça. Je ne vous cache pas que je ne suis pas tout à fait convaincu par ces hypothèses-là, ça
bon,
c'est certain.
D'accord, ça c'est le côté scientifique cartésien, Jean-Marc.
Bien sûr.
Alors vous disiez il y a un instant, tiens, que tous les 60 ans, ils font une cérémonie très importante, mais ils n'ont pas de calendrier, donc ils se réfèrent juste à leur étoile, à leur bonne étoile, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça. C'est très intéressant parce que cette cérémonie s'appelle justement la cérémonie du Sigi, et le nom Sigi, c'est le nom de l'étoile Sirius. Mmh. L'étoile Sirius en Dogon, ça s'appelle Sigi Tolo, donc ça veut dire l'étoile Sirius. Mmh. Alors donc ça a forcément rapport avec cette étoile, mais on n'a toujours pas bien compris en fait qu'est-ce qui déclenchait et comment il déterminait la date exacte de cette cérémonie.
Eh oui, 60 ans, tous les 60 ans. Tout le monde ne peut pas la voir, cette fameuse cérémonie.
Et non, on dit toujours que si vous voulez, vous avez vu la durée de vie moyenne des Dogons, qui est relativement un peu plus limitée que la nôtre en général, par les conditions de vie, on dit que vous ne pouvez jamais voir qu'un Sigi dans votre vie, si vous voulez. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que cette cérémonie est une cérémonie de transmission des connaissances d'une génération à l'autre. C'est un petit peu quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de cultures. Simplement, eux, ils l'ont basé vraiment sur l'étoile Sirius à nouveau.
Bon. Combien sont-ils encore aujourd'hui?
Alors, c'est très variable les chiffres qu'on peut donner. Dans la falaise de Bandiagara, ils sont quelques dizaines de milliers, hein, c'est pas. Mais ils ont essaimé partout, dans tout le Mali. On pense qu'il y a peut-être, il y a au moins 300 000 à 500 000 personnes qui se revendiquent de la culture Dogon.
On va marquer une nouvelle pause, Jean-Marc, mais on va revenir aussi avec vous dans un instant sur justement l'aspect astronomique des Dogons, parce que ils savent par exemple que Jupiter a 4 satellites principaux, ils savent également que Saturne a des anneaux, que la Terre tourne bien autour du Soleil, et pourtant ils n'ont pas d'écrit, pourtant ils n'ont pas encore une fois de matériel. Alors qui leur a inculqué ça? Comment savent-ils précisément toutes ces spécificités de notre univers? Ça c'est quand même une question fondamentale.
Oui, bien sûr. Alors, bon, là aussi, quand moi je suis toujours assez effectivement scientifique, comme vous l'avez souligné, donc je cherche les sources, où est-ce qu'on a trouvé qu'ils ont dit ça. Beaucoup de choses ont été racontées a posteriori par des gens qui ont extrapolé d'une formule à une autre. Donc, si vous voulez, l'histoire de Jupiter, l'histoire de Saturne, c'est beaucoup moins sérieux que l'histoire de Sirius dans ce qui est dit et dans ce qu'on peut retrouver dans différents témoignages. Donc, il y a aussi des choses dont on est moins sûr.
Allez, on en reparle dans un instant avec Jean-Marc Bonnebido, astrophysicien, à mon avis. Encore quelques minutes sur Sud Radio.
La grande matinée Sud Radio. L'esprit libre.
Jean-Marc Bonnebido, astrophysicien, consultant scientifique pour le magazine Ciel et Espace. Et là, on y est. Hein. Ah, on y est dans l'espace. Et on y est bien avec ce peuple du Dogon, des Dogons, sur un plateau assez rocailleux. On est au cœur du Mali. Les Dogons, qui pourraient être un peuple bien ordinaire, sur leur cosmogonie, comme on dit, n'était pas aussi surprenante avec cette planète. Et la petite sœur de cette planète, Sirius et Sirius B. Sirius B qu'on a découvert, oh là là, bien après par les scientifiques, et c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir mais comment pouvaient-ils le savoir avant nous, puisque eux n'ont rien quasiment sur place. Alors des scientifiques, vous l'avez entendu, se sont rendus au Mali, ils ont passé de nombreuses années, notamment Marcel Griol et Germaine Dieterlin, et les a rejoints pendant quelques temps Jean-Marc Bonnebido. Jean-Marc, vous êtes resté combien de temps au fait avec eux?
Alors j'ai fait deux missions, une mission avec Germaine Dieterlin, on est resté un mois entier, et alors on a fait une expérience très très intéressante, parce que Germaine Dieterlin m'avait signalé l'existence d'un endroit où les Dogons auraient observé Sirius. Et alors on a été bien sûr dans cet endroit, et elle m'a montré deux rochers, et il y avait une espèce de table de pierre, un point d'observation duquel on observait ces rochers, soi-disant pour observer Sirius. Et à ma grande surprise, très honnêtement, moi, quand j'ai été dans ce voyage-là, c'était plus pour parce que j'étais curieux, mais je pensais qu'il ne sortirait rien de très très convaincant du point de vue, disons, de l'astronomie. Eh bien, quand on s'est trouvé dans cet endroit, évidemment, on avait calculé à l'avance qu'on avait choisi l'époque de l'année où, justement, il y a un jour de l'année où l'étoile Sirius se lève en même temps que le soleil à l'horizon.
Oui.
Et quand nous avons assisté à ce lever héliaque, nous appelons ça le lever héliaque parce que héliaque, ça veut dire, ça vient du mot grec hélios qui veut dire le soleil, donc ce lever de l'étoile avec le soleil, eh bien nous avons pu constater par nos yeux directement que les deux rochers nous donnaient exactement la direction d'apparition d'un côté l'étoile et de l'autre côté du soleil.
C'est extraordinaire, ça.
Et donc voilà, moi si vous voulez, plutôt que les extraterrestres, c'est ça qui me fascine, c'est qu'effectivement, avec des moyens rudimentaires, les Dogons avaient un moyen de recaler leur calendrier, de recalculer la durée d'une année, parce que cet événement qui apparaît une fois par an et marque la durée exacte de l'année, et ils s'étaient arrangés pour créer un observatoire. Moi je pense qu'en tant qu'astronome, j'appelle ça un observatoire, on observe un phénomène cosmique qui a lieu. Et donc ça c'est très très intéressant, parce que ça nous montre que finalement les hommes, dans toutes différentes parties de la Terre, ont cette curiosité par rapport au cosmos, et ont une intelligence pour arriver à mettre en œuvre quelque chose qui leur fait comprendre les phénomènes cosmiques, et c'est ça, moi, qui me paraît plus intéressant qu'éventuellement imaginer qu'ils soient venus de l'espace dans un vaisseau extraterrestre.
Vous voyez, j'ai bien compris que vous n'étiez pas allé à leur rencontre depuis quelque temps, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore ils fonctionnent de la même manière ?
Alors non, déjà à l'époque, déjà en 98, donc nous avons fait finalement, les témoins qu'avait interrogé Germaine Dieterlin au début, vous savez qu'elle était considérée comme la mère des Dogons, puisqu'elle avait interrogé des grands-pères, des pères et des petits-fils, trois générations successives, et bien déjà dans la dernière génération, les gens ne savaient plus très bien où étaient ces informations. Alors, il y a quand même quelque chose de très intéressant chez les Dogons aussi, qui va peut-être les garder, mais je ne sais pas si ça y aura assez de gens concernés, c'est qu'ils ont un langage très particulier. Ils ont quatre langues différentes en fonction de l'importance de ce qu'ils veulent traiter. Mmh. Dont une dernière langue qu'on appelle la langue du Sigi, le Sigisso, et c'est une langue secrète. Donc on peut imaginer quand même que cette culture Dogon, par quelques érudits Dogon, pourrait dire, va passer de génération en génération, mais il est certain que l'ensemble des Dogons maintenant n'est plus aussi concerné qu'il l'était avec ses usages traditionnels.
Ouais, est-ce que ça veut dire qu'ils sont sous l'influence de nos civilisations modernes ?
Oui, par beaucoup d'aspects, je pense. Donc maintenant, ils ont l'électricité, au moins en partie dans un certain nombre de villages. Ouais. Et surtout, eh bien, il y a eu une influence extérieure qui, pour le coup, de laquelle ils avaient été préservés jusqu'à un certain temps, c'est l'influence de l'islam. Il y a effectivement des mosquées en pays Dogon. Donc un certain nombre de Dogons se sont convertis à l'islam. Donc ça mélange un tout petit peu les références culturelles. Et donc on ne sait pas ce que ça peut devenir. On ne sait pas, évidemment, à l'heure actuelle, comme dans beaucoup de parties du monde, on assiste d'ailleurs très ému et attentif. Vous savez que donc j'ai fait ce voyage aussi avec un cinéaste qui s'appelle Jean Rouch, qui est très très connu dans le monde de la cinématographie. C'est un des premiers qui a porté la caméra à l'épaule, qui avait voulu faire un cinéma vérité. Et lui, il a eu une énorme chance. Il a assisté à la dernière cérémonie du Sigi, de 67 à 74. Il a filmé. Et donc on a dans l'image maintenant, à travers ces films, déjà on a sanctuarisé un petit peu tous ces événements, ce comportement de ces Dogons, et heureusement pour nous, on a gardé maintenant une mémoire de ça. Mais on ne sait pas si le prochain Sigi, qui sera en 2027, va-t-il se passer ou non, cette cérémonie traditionnelle. Vous voyez, on est dans ce domaine d'incertitude maintenant.
Qu'est-ce qui se passe durant cette cérémonie de tous ces 60 ans ?
Eh bien alors, ils construisent un énorme masque qui est la symbole de la mort d'une certaine façon. Il fait plus de 7 mètres de haut et il le transporte de village en village. Et la cérémonie dure 7 ans. À la fin de la saison sèche, ils vont de village en village. Et au bout de 7 ans, elle s'est terminée. On attend 60 ans pour la refaire. Et c'est une façon, je pense, de rendre la cohésion humaine en allant de village en village. Évidemment, on montre que c'est bien un seul et même peuple qui est finalement qui fait ces cérémonies. Il y a des danses, il y a de la musique, c'est un rite d'initiation pour les plus jeunes. On laisse découvrir un tout petit peu de ses connaissances secrètes, et c'est un rite d'initiation.
Bon, alors c'est vrai que on a bien compris votre esprit cartésien du scientifique, hein, mon cher Jean-Marc Bonnevido. Vous êtes astrophysicien, je rappelle. Pour terminer, quel est votre ressenti profond? Est-ce que sincèrement vous croyez au fait que les Dogons puissent venir d'une autre civilisation? Alors je le prends avec mes mots, extraterrestre par définition, qui ne fait pas partie de notre terrestre à nous que nous connaissons aujourd'hui.
Non, moi j'ai beaucoup de mal, si vous voulez. Vous savez qu'on fait une exploration du cosmos à l'heure actuelle, on a détecté d'autres planètes bien, bien lointaines, en dehors oui. de notre système solaire. On se pose maintenant la question, pourrait-il exister d'autres planètes éventuellement habitables? On n'en est certainement pas dans le domaine de la science, et si vous voulez, mon point de vue personnel suit un peu, moi j'ai été formé dans le monde scientifique. Cette hypothèse supplémentaire n'a pas beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle, on peut pas ni la montrer, ni la démontrer, est-ce que c'est juste, si c'est faux. C'est de temps en temps une façon de ne pas essayer de répondre à des questions, si vous voulez. Donc, en fait, ça ne me paraît pas très productif. Maintenant que les gens, dans leur imaginaire, veulent penser à des choses comme ça, bien sûr, chacun a vraiment le droit, et la science n'a pas le droit de dire ce qu'il ne faut pas penser ou ce qu'il faut penser. Mais, disons, moi, je ne suis même pas convaincu qu'il puisse exister une existence extraterrestre dans l'univers. Voilà, donc, bon, pourquoi le penserais-je qu'il s'agirait pour eux des Dogons? Et, au fond, je n'ai pas trouvé d'éléments vraiment déterminants pour m'en convaincre. C'est surtout ça.
Alors évidemment, vous ferez votre opinion. C'est un petit passage dans l'univers des Dogons raconté par Jean-Marc Bonnevido. Il existe bon nombre de supports hein, qui parlent de cette civilisation avec les nomos, avec Sirius A, Sirius B. En tout cas, merci pour cet éclairage, Jean-Marc Bonnevido. Et puis on aura l'occasion. Vous avez une autre expédition prévue là ou pas hein?
Bah peut-être qu'on va y retourner parce que si vous voulez, on aimerait bien aider aussi les Maliens eux-mêmes et les Dogons eux-mêmes à effectivement de redécouvrir ces éléments et faire un lien avec la science moderne, ça serait intéressant. Mais vous savez, vous connaissez la situation politique du Mali à l'heure actuelle.
Oui,
c'est catastrophique. Quand j'ai su qu'effectivement des villes très proches comme Mopti étaient sous le... Enfin, bon, c'est catastrophique là, à l'heure actuelle, donc il n'est pas question d'y aller en ce moment.
Absolument. C'est vrai que la situation géopolitique est très très compliquée là-bas, on est d'accord. Merci beaucoup Jean-Marc Bonnevido. À très bientôt.
Je vous en prie, au revoir.
Merci au revoir.